L'invité de la rédaction. Valérie Vial.
La psychiatre Francine Mérand, artiste de la mémoire, de la Shoah et des génocides, expose du 13 avril au 24 juin en l'église Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg une exposition baptisée « Le monde en bascule et l'humain alors » où l'on retrouve ses œuvres masques, céramiques, peintures et les œuvres de lycéens des masques auprès desquels elle est intervenue. C'est Jean-Marie Vianney Rourangwa, qui est canadien d'origine rwandaise, qui est chargé d'introduire par une conférence l'exposition en référence à son livre « Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda » expliqué à ses enfants. Ce qui nous amène à notre invité du jour, Immaculée Mkagazinma, rescapée Tutsi, c'est important de le dire aujourd'hui, installée à Strasbourg. Immaculée Mkagazinma, bonjour.
Bonjour.
Alors votre regard aujourd'hui sur l'art et les génocides, et en particulier celui du Rwanda, où plus de 800 000 Tutsis ont été méthodiquement assassinés entre le 6 avril et le 17 juillet 1994. Vous pensez que ce génocide, aujourd'hui, est trop méconnu et non reconnu, même si on sait que Emmanuel Macron l'a reconnu?
Je peux l'affirmer parce que je me bats depuis 1994 à en parler. Les gens me disent, mais j'étais adulte à cette époque. Je n'en ai jamais entendu parler. Ce qui fait que même aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aller dans les lycées où j'ai rencontré plusieurs fois Francine Mérand. Et certains professeurs me disaient, mais je n'avais pas eu idée de ce génocide. Et même quand on parle de 800 000 morts, c'est les statistiques qui ont été données tout de suite au mois de juillet, trois mois après. Aujourd'hui, on va dire à la 25e commémoration, nous avions statistiquement retrouvé plus de 1 200 000 morts. Tend vraiment à beaucoup plus parce qu'aujourd'hui encore, on retrouve les génocidaires qui osent, qui ont gros sur le cœur, qui osent en parler, dire « moi je vais en finir avec le poids des morts, je vous montre où j'ai mis les gens ». Ils nous disent par exemple « j'ai mis cette personne là-dedans et quand on creuse, on tombe sur 200, 300, 400. Donc, les 800 000 morts, c'est le chiffre figé de l'ONU de juillet 1994. Et depuis cette date, on est à la 29e commémoration cette année. On
en a trouvé. Alors, je parlais de meurtre méthodique. En fait, les Tutsis ont été assassinés l'un après l'autre dans les villages, dans leurs maisons, dans leurs appartements. En fait, à coups de machette, que ce soit les bébés, les femmes, les hommes, les grands-parents, peu importe, tout le monde a été méthodiquement assassiné.
Systématiquement, même les femmes enceintes étaient éventrées pour que cet œuf ne se reproduise pas. Parce que même avant le génocide, je vais dire en 1990, parce que la guerre qui a déclenché a commencé en 1990, un des responsables au pouvoir avait fait un grand discours en disant « N'oubliez pas, même les œufs dans le ventre de leur maman, ne laissez rien parce que ces serpents se reproduisent d'une manière que même un œuf dans le ventre de sa maman peut se reproduire. » Donc même les femmes tuées, on les éventrait pour sortir le bébé, cogner la tête quelque part.
La mécanique de ces génocides, elle remonte, les prémices remontent au début du XXe siècle, où déjà il y avait une ségrégation faite entre les Hutus et les Tutsis. Et donc, quelque part, les Hutus se sont sentis mésestimés dans la société rwandaise. Et c'est une haine comme ça qui a été alimentée d'année en année et qui a mené à ce génocide en 1994. C'est quelque chose que vous aviez senti venir, vous, cette haine du peuple Tutsi?
C'est quelque chose que j'ai vécu dès le ventre de ma mère.
C'est
parce
vrai.
Que moi, j'ai été conçue dans un camp de réfugiés. Mon papa a été tué quand j'avais même pas 2 ans. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu de A à Z. Et que les Hutus et les Tutsis, au fait, c'est une même famille, si j'ose dire, mais ce n'est même pas des ethnies, c'est plutôt social. Les Hutus, c'était des cultivateurs, les Tutsis, c'était des éleveurs. Lorsque un cultivateur accédait à 8 vaches, qui représentait la richesse au pays. Parce que lorsque vous avez les vaches, vous avez le lait, vous avez le fumier, vous avez tout. Lorsque un cultivateur accédait à 8 vaches, il basculait au Tutsi. Pour vous dire que ça n'avait rien à voir avec les ethnies. Mais depuis 1933, lorsque le berger, le colonisateur, a décidé de mesurer les nez, de dire non, certains sont grands, d'autres sont petits, les oreilles, les dents, je ne sais pas quoi. Donc ils ont mis des cartes d'identité figées. Ça a tout basculé, ça a montré. Et en fin de compte, ils se sont alignés au roi, qui c'était la minorité soi-disant, qui gouvernait le Rwanda, les Tutsis donc, qui étaient apparemment grands, mais grands de taille, de figure. Lorsque vous avez effectivement la fameuse richesse que vos enfants mangent, ils grandissent bien, c'est automatique. Dans la famille dont on parle de Tutsi, on pouvait trouver un garçon ou une fille de 2 mètres et un autre, son petit frère, de 1,68 m. Est-ce que, même père, même mère, est-ce que celui-là était Hutu? Mais puisque la carte d'identité a été là, a été figée, c'est impossible de contourner. Et à un moment donné, le colonisateur a retourné sa veste, a dit les Hutus, réveillez-vous, vous êtes majoritaires. On vous écrase. Pourquoi le Tutsi vous gouverne? Et ce retournement est venu parce que le roi de l'époque avait demandé l'indépendance. Maintenant qu'il ne veut plus du colon, ils l'ont même tué. Et nous allons le liquider. Et puis, ils ont mis les révoltes de 59. Et c'est là que les premiers Tutsis ont été massacrés, 59. Celui qui n'a pas été tué a été mis à la porte. Donc, ils ont fui vers l'Ouganda, le Congo, les pays limitrophes, surtout oui. Les 4 pays limitrophes. D'où les enfants qui ont vécu en Ouganda maltraités. Ils n'ont pas eu vraiment le Haut Commissariat des réfugiés. Je ne pense pas qu'ils ont été bien entretenus. C'est eux qui ont voulu demander à l'ONU d'être réintégrés, de retourner dans leur pays. Et le Rwanda a refusé méthodiquement, le Rwanda de Habyarimana, donc des années 80, en disant « le Rwanda est tellement petit, on ne peut pas accepter une tête de plus ». Les Tutsis de l'extérieur ont dit « nous vivons très mal, accordez-nous au moins l'est du Rwanda où se trouve le un quart du pays et le parc national, nous allons nous débrouiller ». Le Habyarimana de l'époque a dit le président « non, ce un quart du pays, c'est le point touristique, je ne peux pas vous accueillir ». Et le FPR donc est entré avec les armes parce que déjà en 81, on les avait menacés, l'Ouganda de Idi Amin Dada et Obote les avaient menacés, chassés du pays. Ils sont arrivés au Rwanda accompagnés par les armes de l'armée ougandaise et attendus par l'armée rwandaise. Donc, ils ont été massacrés en grande quantité et encerclés. À gauche, il y avait de l'eau, le Nil qui monte de la Kagera, qui se jette dans la Victoria. Ils ne pouvaient pas partir. Ceux qui ne sont pas morts, des fusils rwandais ou des fusils ougandais, sont morts de la Mouche-Tsetse. Donc, j'ai vécu, je l'ai subi. Je savais que la grande partie de la famille de ma maman avait fui en Ouganda. Lorsque, en 1981, je commençais quand même à être consciente. Je suis née en 1959, donc j'étais adulte pour comprendre que ceux qui sont en train de mourir sont les miens. Là, j'ai pris conscience. Et même à l'école primaire, qu'on me demandait tous les ans, début de l'année, « Levez-vous, les Tutsis de votre coin, les Hutus de votre coin. » Donc, vous étiez catalogués dès le début, le 1er septembre, et qu'à la fin de l'année, à la fin du cycle primaire, il y avait ce qu'on appelait le quota ethnique. Même si vous étiez première en classe, il fallait dire que dans la préfecture du Bas-Rhin, il faut y avoir que 14% de Tutsis qui accèdent. Ces 14%, c'était sur le chiffre. Quelquefois, c'était une qui était, on va dire, la dixième, qui ne va peut-être pas poursuivre, alors que la première, elle est là, elle ne va pas.
Oui, de la vraie discrimination.
Discrimination du début à la fin.
Immaculée, en 1994, vous aviez quel âge? Vous aviez 35 ans, et à ce moment-là, vous avez vécu comment? moment, votre vécu personnel. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes en France, réfugiée politique. Vous êtes arrivée toute seule en France?
Ça remonte un peu à 4 ans avant. Lorsque le FPR a attaqué, est entré au Rwanda en octobre 90, ma famille habitait le nord du Rwanda, qui n'est pas mon lieu de naissance. Donc, maman a fui son lieu de naissance et l'a atterri au nord, là où il y avait un seul évêque du Rwanda qui accueillait les réfugiés. Donc, on est resté là et il se fait que c'est la région natale du président de l'époque, Juvenal Habyarimana. Et donc, depuis ce 90, octobre 90, le Nord, les Tutsis du Nord, nous avons été le laboratoire d'expertise du génocide. J'ai subi personnellement, jeune fille, donc en 94, on m'a mis en prison. Première accusation, est-ce que vous ne voulez pas venger votre père? J'ai sursauté parce que ce père, je ne l'avais pas connu. Je suis née lorsqu'on se cachait, je ne me souvenais même pas de son image.
En fait, on a supposé que vous vouliez venger votre père et on vous a emprisonné pour cette raison-là.
Ils ont fait un semblant, un théâtre qui est connu, que vous pouvez regarder sur Internet. La nuit du 4 au 5 octobre, ils ont emprisonné plus de 10 000 Tutsis. La même nuit, les prisons étaient bondées, ils les ont mis dans les stades, dans les brigades. Et moi, j'ai été dans une brigade, d'abord à la mairie, à la commune. J'ai vécu mes yeux, le lendemain, je louchais parce que je n'arrivais pas à cligner les yeux. Et première accusation, vous ne voulez pas venger votre père. Je dis, mais vous voulez me confirmer que vous l'avez tué parce qu'il n'a pas été enterré, on ne sait pas, confirmez-moi. Je ne l'ai pas connu, il ne me manque. Pourtant, on a retrouvé sa photo dans votre album. Je dis, cette photo, je l'ai prise chez quelqu'un. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, si je dis que quelqu'un venait, je ne l'avais même pas 6 mois. Je venais de l'avoir, je venais d'avoir l'idée de l'image de mon père. Parce que lorsque on tue même les photos, même les souvenirs, même rien du tout. Mon papa n'était pas n'importe qui, il était sous-chef comme maire à l'époque. Donc, ils avaient tout liquidé, je ne l'avais pas vu, je l'avais connu, vu la première fois en photo, cette année 90, et en octobre, on m'accuse de vouloir le venger. Donc, j'ai connu la prison comme plusieurs autres Tutsis, jusqu'à ce que la Croix-Rouge, l'Amnesty International crie en disant il y a des femmes qui goupillent dans les prisons, il y a des prêtres. Dans la prison des femmes où j'étais, il y avait un prêtre, mon curé d'ailleurs, Augustin Nagara, qui avait été malmené, des choses que je ne peux pas dire à la radio, dans le coin des garçons, et donc on l'a mis chez les femmes pour le préserver. Et lorsque l'Amnesty International l'a répété encore, quelques mois après, c'est là que moi j'ai été libérée dans la foulée par ce cri d'Amnesty International et de la Croix-Rouge, pour que lorsqu'ils viennent, ils ne trouvent pas la foule entassée comme des sardines. On nous a fait nettoyer pour une fois, pour que la Croix-Rouge ne trouve pas les punaises et les puces dans la prison.
Et là, vous avez été libérée alors de prison?
J'ai été libérée pour être encore... j'ai failli me faire lyncher chez moi. Là, j'ai fui ma maison. J'ai réussi à passer 26 heures dans un trou. Parce que dans la nuit, le FPR avait réussi à ouvrir la prison politique de Ruhengeri, la prison de la mort. Ils ont récupéré quelques prisonniers qui y étaient, les prisonniers Tutsis, et d'autres prisonniers politiques, Hutus, mais politiques opposants au président Habyarimana. Ce qui fait qu'ils ont fait encore un théâtre de tirer dans l'air pour dire que maintenant c'est le Nord où le FPR arrive. Et là, notre maison était complètement plus de portes, plus de fenêtres. On avait trois maisons déjà habitées, celle de maman, celle de ma grande sœur qui était mariée, celle de ma tante maternelle et une qu'on était en train de construire pour louer.
Vous saviez à ce moment-là qu'il y avait des crimes, des exécutions sommaires qui étaient réalisées?
Ah ben oui, il y en avait, on le savait. Lorsque j'étais en prison, j'ai assisté personnellement lorsque il y avait un clan des Tutsis, mais qui sont dans les montagnes, qui des éleveurs vraiment, des vrais éleveurs qui ne se mélangeaient même pas avec nous. On dit que ce sont des affiliés. Et cet outil, il y avait des bus, des camionnettes qui les amenaient et qui déversaient en prison. Ils n'allaient pas dans ma brigade, ils n'allaient pas dans la grande prison centrale. Donc, je pense qu'à cette époque, il y avait déjà des fosses communes parce que cet outil, on n'a jamais su où ils sont. On sait que les Bagogwe ont été vraiment le... C'est là d'où je tire le mot « laboratoire du génocide ». Ils ont été menacés depuis 90, ils ont été exterminés. Ce sont déjà des gens à part qui ne sont pas du tout politiques, qui ne se mêlaient pas avec nous. On leur demandait d'aller voter. Ils étaient à part, ils étaient paisibles, plus que paisibles. Malheureusement, ils ont fait le sujet du laboratoire. Ils ont été exterminés. J'ai vécu, surtout lorsque j'ai quitté ce fin janvier pour aller fuir, j'ai failli me faire lyncher. Je suis tombée à une embuscade parce que j'avais pris un petit raccourci pour arriver quelque part à la Rufferina, à un lieu surveillé. Je ne suis pas arrivée parce que je suis tombée dans la bananerie sur un groupe qui savait que si quelqu'un de chez moi échappait, passerait par ce petit chemin pour aller à la Rufferina. Donc j'ai été prise par deux hommes. Un, je l'avais fait libérer, j'avais payé moi-même pour qu'il soit libéré. Il m'a fait comprendre que cet argent, je n'ai plus d'argent, c'était son argent. Bon.
Ouais.
L'autre était le vétérinaire du poulailler de ma maman. Ils avaient des machettes à la lueur de la lune, je les voyais. Hein. Un m'a coupé, celui-là que j'avais fait libérer, Gachogo, je peux dire son nom. Il coupait, on était dans la bananerie, on jouait au chat et à la souris. Le bananier tombait, j'allais sur l'autre, il coupait. Il a fait tomber quatre bananiers, je n'ai pas été touchée. Jusqu'à ce qu'une femme, dont un, vienne dire « Mais pourquoi vous la tuez ? Elle est gentille, l'autre... » Bon, bref, c'est Dieu qui a fait que je ne meure pas cette nuit-là.
Et votre sœur et votre maman ?
Alors, ma maman...
Elles ont réussi à s'enfuir avec vous ?
Non, elles n'ont pas fui, elles ont vécu, elles ont survécu. J'étais visée parce que je travaillais à la fonction publique, même pour vous dire comment j'étais visée plus que les autres. Lorsqu'on m'a libérée de la prison, il y avait au moins 7 personnes devant le drapeau, on m'a fait jurer que je n'allais pas parler et aux Européens parce que je travaillais dans une société qui est l'équivalent de EDFIC, hein, l'électrogaz, oui. Où je travaillais avec les Européens, les Blancs, où j'étais évoluée, je pouvais parler, je pouvais écrire, la Croix-Rouge pouvait me contacter. Donc le commandant de place me dit, Immaculée, vraiment, on ne vous a pas touché, regardez, on ne vous a même pas rasé, exceptionnellement, vous regardez les autres. Au fait, il n'avait pas assez de monde pour raser tout le monde. Donc mon tour allait venir, mais je n'ai pas été rasée. Les lames de rasoir qui rasaient n'étaient pas suffisantes, que certaines ont été rasées avec les bouteilles coupées. Hein,
avec les tissons de bouteilles.
Oui, voilà. Donc, ma famille n'avait pas fui avec moi. J'ai fui chez les Canadiens et je suis restée 4 mois. Chacun fouillait de son côté, hein, au petit séminaire, qui à l'orphelinat, qui chez un voisin. Toute ma famille qui n'a pas fui, les aînés, donc ma maman, ma tante, ma grande sœur, ils ont été tous tués en 94. Donc, lorsque le déclenchement,
oui.
Le point a été mis sur le i. À un moment donné, je me disais même que j'étais la sœur adulte de la famille qui restait, mais j'ai appris que j'avais ma petite sœur qui n'habitait pas à la maison, qui finissait son université, qui était à Kigali, qui a survécu. Donc, on a élevé les orphelins.
Vous êtes arrivée en France en 1994 ?
Lorsque je dis que je suis rescapée du génocide, je suis rescapée de tout. Le génocide n'a pas eu lieu pour moi, hein, en 1994. Déjà en 1959...
Oui, c'est ce que vous nous racontiez, effectivement.
C'est ce que je vous raconte. En 1973, il y a eu d'autres massacres où j'ai vu ma sœur, on l'a noyée dans l'eau. Elle nous est revenue 3 jours après parce que la rivière où on l'a noyée, c'était à côté, la rivière où on nageait, mais la fille qui était en visite chez nous, n'a jamais été retrouvé. Donc pour moi, vraiment, le génocide de 94 est le point qui a été mis sur le i. C'est
la date dans les livres d'histoire, mais ce n'est pas uniquement ça.
Ce n'est pas uniquement ça.
Vous êtes toujours en colère, on sent que vous êtes toujours... Ah, vous portez cette histoire, elle fait partie de vous.
Ce n'est pas la colère, parce que je m'aime. J'aime Immaculée, je la préserve. La colère m'orangerait. J'ai eu une fois la colère. J'ai vraiment vécu avril 94. Je disais pourquoi même la mort me refuse. Je voudrais me tuer, mais je ne suis pas morte. Et à un moment donné, je voulais, lorsque j'ai appris la mort de ma maman et la personne qui se vantait de ce qu'il a fait d'elle et de ma sœur, j'ai eu la colère. Je me suis dit, je dois les venger jusqu'à ce que tout ce que je rencontrais, lorsque j'ouvrais la Bible, je rencontrais un musulman, un juif, un athée me disait, Immaculée, attends, calme-toi, adieu la vengeance. Et je me suis calmée. Et lorsque, 2 ans après le génocide, j'ai accueilli 2 orphelines, les plus jeunes que ma sœur avait laissées, je me suis dit, je sais maintenant pourquoi je vis, c'est pour ces enfants. Je peux vous dire que, Immaculée, je vis mieux que les génocidaires. J'ai les mains propres. J'ai la conscience tranquille.
Vous n'avez pas justement d'esprit de revanche, ce qu'on vous prêtait déjà pour votre père
Non.
Pas du tout.
C'était faux parce que ils m'ont ouvert les yeux, ils m'ont accusé.
Mais aujourd'hui, ici, en France, en sachant qu'il y a des personnes qui ont du sang sur les mains, des Hutus qui vivent en France en toute impunité, à Strasbourg, ça c'est quelque chose que vous arrivez à accueillir sereinement ?
Ben, je l'accueille en disant, surtout, je ne dois pas me taire.
Oui.
Parce que je me dis, je dois être la voix des sans-voix. Un jour, quelqu'un me dit, ce quelqu'un deviendra finalement mon mari, me dit, Immaculée, il faut absolument que tu nous expliques ce qui s'est passé, parce que sinon vous allez voir, l'histoire fera que vous deviendrez plutôt vous les génocidaires. Et effectivement, ça s'est fait. Ils ont commencé par minimiser. En disant, je donne l'exemple de Nyundo, ma paroisse où je vivais. Quelqu'un, en 1978, lorsqu'il y a eu la commission des députés en France ici, il y a un militaire haut gradé qui a témoigné, j'imagine que c'est sur le drapeau français, en disant, je ne sais même pas d'où ils sortent les 800 000 morts, parce que moi j'étais à Nyundo, à Gisenyi, à l'ouest du Rwanda, à quelques kilomètres de la ville de Goma, frontalière avec de Congo. Il n'y a eu que 3 morts. Dites-moi, où est-ce que l'ONU trouve les 800 000 morts ?
Vous parlez de négationnisme.
Lorsque j'ai lu ça, j'ai été troublée. Je me disais, mais mon Dieu, on parle de 3 morts à Nyundo. Dans ma propre famille, il y a plus que 3 morts. Où sont les autres ? Là, je me suis réveillée. Je dis, non, Immaculée, tu ne dois pas te taire. Et les gens me pointaient du doigt, me disaient, mais où étais-tu ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ces 3 morts, pour vous dire comment le négationnisme est très fort. En 2000, ils sont tombés sur une fosse commune où il y a eu plus de 200 personnes au petit séminaire. Et en 2004, là, on m'appelle pour me dire, viens Immaculée, ta famille a été retrouvée, elle est dans une fosse commune, pas loin de l'église. Là, on a déterré exactement 642 corps, plus ma maman qui avait été tuée en premier le 7 avril, donc qui était enterrée dans sa parcelle, qu'on a ramenée avec les autres, donc c'était 641. Ma maman était la 642e. Et lorsque vous lisez qu'un officier qui était sur place, qui dirigeait l'armée française là-bas, dit qu'il n'y a eu que 3 morts, et vous comptabilisez 2 fosses communes, sans parler de toutes ces personnes dans la rivière, dans leur WC. Aujourd'hui, cette fosse commune de Nyundo, le site mémorial qu'on a érigé, il y a plus de 1000 personnes, alors que l'officier dit 3 morts. Je ne peux pas me taire.
Alors aujourd'hui, il y a une vraie reconnaissance de ce génocide, déjà par les historiens, également par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a reconnu ce génocide. Est-ce qu'aujourd'hui, au Rwanda, Il y a des Tutsis qui vivent en paix et qui ont réussi aujourd'hui à refaire, à reconstruire leur vie.
Il y a les Tutsis et les Hutus.
Il y a toujours encore cette ségrégation entre les deux peuples.
Il n'y a pas de ségrégation parce que la première chose que le président actuel, le président Paul Kagame, a faite, c'est d'enlever l'ethnie, de changer la carte d'identité. On est tous Rwandais, mais les rescapés du Rwanda cohabitent avec leurs bourreaux. Donc c'est
terrible. Vous y retournerez, vous, un jour?
Mais j'y reviens là. J'étais en novembre, décembre. Je suis retournée en 94. 15, clandestinement, pour voir moi-même de mes yeux ce qui s'est passé, c'était horrible. Là, j'ai vu que ma petite sœur Claudine Nyinawagaga, la fille de ma tante maternelle, qui habitait chez moi, donc, qui était comme ma propre petite sœur, avait dans sa propre maison 21 petits orphelins, dont les enfants de ma grande sœur. Du coup, j'ai accueilli deux enfants de ma sœur, une qui avait 3 ans et demi pendant le génocide, et sa grande sœur qui avait 8 ans, je peux vous dire que je les ai fait venir en 96. Je suis retournée en 2001. Je venais de me marier avec mon mari. Je suis retournée en 2004 lorsqu'on devait enterrer les nôtres en toute dignité. Je suis retournée en 2019 où j'ai d'ailleurs eu la grâce de rencontrer M. Riss, l'ancien maire de Strasbourg.
Oui.
Et ensemble, on a travaillé ensemble, on a érigé une stèle mémoriale pour ce génocide. Donc, commis contre les Tutsis de 94. Et là, l'année dernière, fin 2022, je suis retournée, cette fois-ci avec deux Français qui voulaient voir eux-mêmes ce que c'est le Rwanda. Donc les Rwandais, ils sont d'une résilience que je n'ai jamais vue. Alors, une petite chose que je ne vous ai pas dit, c'est que la porte de sortie qui m'a permis de vivre, d'échapper au génocide, c'est que c'est Israël qui m'a ouvert la porte. Lorsque j'ai quitté le Rwanda, j'ai eu une petite bourse d'études par le système Gorda Meir et j'ai fait mes 3 mois à Haïfa. Et puis, comme je sentais ce qui arrivait, au fait, je n'ai pas vraiment vécu 94, comme on le dit. Je suis partie un an avant avec ce système de formation Gorda Meir, où je suis partie sans visa, sans rien. J'ai dit au ministère de l'Intérieur que je ne pouvais pas retourner. Ils étaient très embêtés parce que la convention, c'était que je retourne pour que c'était ce qu'ils avaient signé, mais je bénis Dieu pour les personnes qui m'ont accueilli, dont Madame Fanette Modek, qui était la directrice de l'époque, qui a tout mis en place pour que je parte et je quitte Israël sans retourner, parce que à l'époque, le français Monsieur Jean Carbonard avait fait partie de la commission qui est allée voir les exactions qui s'y passent et avait parlé à la F2 ici en disant, en parlant du génocide, en février 92, quelques mois avant, et il a dit le nord du pays, c'est vraiment, c'est là qu'il a découvert des charniers bien avant le génocide. Et les Français que j'avais rencontrés en Israël, qui sont ici, dont un certain Olivier Richard Mollard, il a tout fait pour me faire venir. Donc, pour vous dire que mon point de chute qui m'a offert la vie, c'est Israël et j'y ai vécu un an.
C'est entendu. Merci infiniment, Immaculée Piganzima. Je le dis toujours aussi mal, je suis vraiment désolée d'écorcher votre
bien.
Nom.
C'est Piganzima.
Je vais travailler.
Mon rwandais.
Merci infiniment d'être passé nous voir. Bien sûr, nos portes ici vous sont toujours ouvertes.
Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir cette opportunité de parler de mes parents, de parler de ma vie, de parler de mon pays, de parler des Tutsis de parler pour ceux qui n'ont pas eu le droit de parler. Merci beaucoup.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.